Après deux interventions excellentes, qui abordaient chacune donc un aspect spécifique de la question du déluge, donc un apport plus exégétique, hein, biblique exégétique, l'autre plus scientifique. La conférence maintenant prend un peu de recul. En fait, je ne parlerai pas de déluge, mais je pose un peu des questions de méthode. Quand nous avons donc des renseignements à la fois d'ordre biblique, d'ordre théologique et d'ordre scientifique, comment est-ce qu'on peut les articuler? Et donc, quelques considérations donc en arrière-fond qui peuvent guider ensuite notre réflexion sur comment confronter, comment harmoniser, comment tenir ensemble à la fois donc les renseignements que nous obtenons par la science et par la théologie. Et donc, un premier point donc, qui est important, je pense, c'est de se rendre compte des différences de méthode, hein, dans la méthode scientifique, dans la méthode théologique, parce qu'évidemment, la méthode utilisée hein, oriente le type d'information qu'on peut obtenir. Hein, il ne faut pas s'étonner qu'un film est en noir et blanc si vous utilisez un téléviseur en noir et blanc. J'ai grandi enfant avec un téléviseur noir et blanc et les films en couleur commençaient tout juste et donc c'était toujours un peu frustrant de regarder ces films couleur sur notre téléviseur à la maison. Mais voilà, hein, et donc la science et aussi la théologie ont chacune leur méthode, et donc évidemment cette méthode oriente aussi le type de résultat hein, que nous pouvons espérer de l'une et de l'autre. Donc il y a d'abord, je crois que ça c'est important à signaler, à une époque où on oppose souvent science et théologie, il est déjà important de se rappeler qu'il y a une source d'autorité ultime dans les deux, donc il y a vraiment des similitudes. Donc pour la science, hein, je ne rentre pas dans toutes les nuances, mais en gros, hein, c'est l'ordre naturel exploré par l'observation et l'expérience. Et pour la théologie, hein, donc l'écriture, en tout cas pour la théologie chrétienne de type évangélique. Hein, donc l'écriture sainte est source d'autorité ultime. Et dans les deux, la science et la théologie, la construction de théories ou la construction du savoir à partir de ces sources n'est pas une démarche directe. Je pense qu'on est très conscient de cela la plupart du temps. On l'est peut-être un peu moins parfois en science, ou en tout cas ceux qui regardent la science extérieure ont parfois l'idée que bon, il suffit de faire des expériences et on voit avec les expériences donc les théories scientifiques. Mais non, c'est plus compliqué que cela. Et en particulier, les hypothèses préalables et même les pratiques et les paradigmes communautaires jouent un rôle essentiel. Hein. C'est pourquoi, en fait, pour devenir scientifique et théologien, hein, mais ça, je veux dire, dans n'importe quelle démarche académique, on ne peut pas être autodidacte. Hein. Il faut entrer dans une communauté. Il y a un processus d'initiation long hein, qui prend, disons, 8 ans minimum hein, si vous accomplissez toutes les étapes. Hein, donc, mais ce sont des processus initiatiques hein, dans une communauté et vous ne pouvez pas participer en fait à l'activité scientifique sans passer par là et pas non plus à l'activité théologique parce que justement il y a tout un paradigme à l'intérieur duquel ces pratiques s'exercent. Et dans les deux pratiques aussi, en science et en théologie, des commissions métaphysiques et religieuses sont importantes et d'ailleurs elles deviennent de plus en plus importantes plus on s'approche de questions existentielles. Alors ça je le montrerai peut-être pas, mais c'est quand même un consensus sur lequel on est arrivé en épistémologie, en philosophie des sciences et il y a des exemples assez frappants. Hein. Où des écoles s'affrontent et ces écoles s'affrontent d'autant plus hein, que les questions existentielles sont en ligne de compte. Maintenant, il y a donc ces points de contact, mais il y a aussi des différences. Et Je voudrais retracer ces différences. Là, je me place volontairement dans une perspective chrétienne. Hein, nous réfléchissons en tant que chrétiens ensemble. Il y a une différence décisive qui vient du type de source ultime. Donc, dans les sciences de la nature, hein, on explore la révélation naturelle, aussi générale, hein, alors que la théologie, hein, explore la révélation spéciale. Alors, il y a une place pour la révélation naturelle aussi en théologie. Et d'ailleurs, différentes approches théologiques ne voient pas le même lien, mais en première approximation, hein, et on reste à ce niveau-là, à ce cadre-là. Donc, il y a quand même, la théologie travaille d'abord et avant tout, hein, sur l'écriture. Bien sûr, ça présuppose la révélation naturelle aussi, mais le centre d'attention est sur l'écriture, alors qu'en science de la nature, sur la révélation naturelle. Et la science en fait partie du mandat culturel que l'humanité a reçu à la création, alors que la théologie s'inscrit davantage dans l'histoire du salut. Alors, je ne spécule pas pour savoir si Adam était déjà appelé à un travail théologique au paradis, mais en tout cas la théologie telle que nous la pratiquons, telle que nous la connaissons, s'intéresse avant tout au salut, et donc fait partie de l'histoire du salut. Et donc, qu'est-ce que cela implique, hein, cette différence dans le type de source d'autorité ultime? Alors, une différence très importante, hein, c'est que l'autorité ultime en science est non-verbale, alors que l'autorité ultime en théologie est verbale. C'est une révélation verbale, c'est un produit de langage. Alors, bien sûr, l'opposition n'est pas absolue parce que la nature elle-même, dans une perspective chrétienne, est structurée par le Logos, par, d'après Jean 1, donc, disons, déjà Genèse 1, donc la parole, Dieu crée par la parole, mais donc interprétée dans Jean 1, comme la deuxième personne de la Trinité, avec ce rapprochement avec le concept stoïcien, hein, du Logos, et en même temps, alors, donc un rapport avec toute la tradition de la création par la sagesse qu'on trouve dans l'Ancien Testament, donc les Proverbes 8. Donc la nature donc, est structurée, elle est donc accessible à l'exploration rationnelle, donc elle n'est pas l'opposé du logos, de la raison, mais ce n'est quand même pas, hein, donc, un discours. Et donc là, il y a une différence importante, donc verbale, non-verbale. Il y a une deuxième différence, c'est que la théologie travaille sur la révélation spéciale qui trouve son centre en Christ et dont le salut accompli une fois pour toutes. Et donc, cela implique, d'après Hébreux 1, l'épître de Juge, aussi la clôture du canon biblique. Hein, nous sommes appelés, la théologie travaille, explore le trésor de la foi transmis une fois pour toutes au saint, comme dit l'épître de Juge. Et cela va avec le fait que le salut en Jésus-Christ a été accompli une fois pour toutes et donc est achevé. Donc Christ est la dernière parole de Dieu, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, donc dans son premier, dans tout début. Alors que la révélation naturelle continue, parce que la révélation naturelle, c'est tout simplement toute la réalité, hein, donc naturelle, et donc cette révélation continue, et donc il n'y a pas cette clôture, hein, cet achèvement de la révélation naturelle, comme on a l'achèvement pour la révélation spéciale. Troisième différence, c'est que Dieu décide librement ce qu'il fait dans l'histoire du salut et ce qu'il révèle de lui-même dans l'histoire, dans l'écriture, pardon. Hein, donc il y a là une... Alors la création est aussi un acte libre, mais cet acte libre est posé, hein, et donc achevé. Et donc cette liberté, disons, cet acte libre de création, hein, peut donc être exploré par les hommes, et ils ont même la vocation à l'explorer. Alors que, justement, l'homme doit recevoir ce que Dieu révèle de lui dans la révélation spéciale et aussi d'accueillir, hein, ce qu'il fait au niveau du salut. Aucune expérience et aucune spéculation théorique n'aurait pu prévoir le salut accompli à Golgotha. Je continue toujours hein, dans les implications de la différence décisive. Donc, en ce qui concerne l'esprit, à cause du péché, l'illumination par l'esprit est nécessaire pour la lecture biblique et donc pour le travail théologique. La recherche scientifique ne se fait pas non plus sans le secours de Dieu, mais je crois qu'il faut distinguer le secours que Dieu offre de l'illumination par l'esprit. Donc, en théologie, on dirait que c'est la grâce commune de Dieu, commune parce que donnée à tous les hommes, donc en fidélité à son œuvre de création, qui permet la recherche scientifique, ce qui explique aussi pour qu'il y ait tant d'hommes pécheurs non régénérés qui sont d'excellents scientifiques. Et donc pourquoi tant de chercheurs scientifiques qui ne profitent pas de l'illumination par l'esprit font pourtant de la bonne science parce qu'ils profitent de la grâce commune. Donc, ensuite, la contribution constructive du chercheur est plus décisive et plus grande en science comparée à la théologie. Justement, parce que dans un cas, on travaille sur un texte, et dans l'autre cas, donc, sur quelque chose de non-verbal. Donc, il y a donc, le chemin à parcourir à partir du non-verbal pour arriver à une construction théorique est plus longue. Et en même temps, la responsabilité de l'homme, justement, son mandat, est beaucoup plus engagé dans le travail scientifique. Il est beaucoup plus actif à ce niveau. Et cela se manifeste en particulier dans le rôle différent de l'expérience en science. Alors c'est vrai qu'il y a certains efforts en théologie d'imiter l'approche expérimentale de la science. Je dois dire que jusque-là, ça m'a toujours laissé un peu dubitative. Donc cette imitation de la démarche scientifique, donc des sciences de la nature. Mais en fait, il y a, en ce qui concerne le caractère de Dieu même, donc nous avons une interdiction de mener des expériences. Donc dans Deutéronome, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, exclut l'idée qu'on pourrait faire des expériences pour essayer de mieux comprendre le caractère de Dieu. Donc voilà, justement, là, on a une démarche très différente entre les sciences de la nature et la théologie, parce que la source d'autorité ultime est la responsabilité des chercheurs sont différents. Et alors donc, aussi comme le chercheur humain est plus actif en sciences de la nature qu'en théologie, la connaissance scientifique connaît un progrès plus important, mais est aussi plus provisoire le savoir théologique. Alors, j'ai noté tout à l'heure que de Beauvoir disait « Nous connaissons l'âge de la Terre et cet âge-là ne va pas évoluer ». Bon, je nuancerai peut-être, mais bon, on pourra en débattre. Voilà, le dialogue entre science et théologie. Donc, qu'est-ce que cela maintenant veut dire pour le dialogue entre science et théologie? Alors, premier point, je trouve très important, parce que même en tant que chrétien occidentaux scientifique, nous tombons très facilement dans ce travers, c'est de dire que la dichotomie entre foi et savoir du siècle des Lumières et en particulier de Kant n'est pas tenable. En fait, elle a été abandonnée en épistémologie contemporaine, alors je ne peux pas développer, mais des noms comme Thomas Kuhn, comme Michael Polanyi. Mais de toute façon, donc nous ne pouvons pas accepter cette séparation parce que Dieu est le créateur de toute la réalité. Donc ça, c'est Wolfhard Pannenberg, un théologien luthérien allemand, qui le soulignait pour dire que les chrétiens, les théologiens, ne peuvent pas accepter d'être cantonnés aux questions de vie et de foi. Parfois, donc, je veux dire, bon, la Bible dit vrai quand elle aborde les questions de vie et de foi. Disons, dans la Bible parle du Dieu créateur, et c'est bien le Dieu créateur du monde visible, du monde matériel. Et donc, elle adresse l'ensemble de la réalité, et on ne peut pas se contenter de cette limitation. Et souligner donc aussi qu'il n'y a pas l'effet d'un côté et l'interprétation de l'autre. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous l'avez même dit, que la science nous donne les faits et la théologie nous donne le sens des faits, ou cette citation qu'on donne souvent hein, de Galilée, que la Bible ne nous dirait pas comment va le ciel, mais comment aller au ciel. D'ailleurs, je ne sais pas si la situation est apocryphe ou si c'est vraiment de Galilée, mais bon, voilà. Hein, ce type de séparation, en tout cas, ce n'est pas plus qu'une première approximation. Parce que dans la science et dans la théologie, nous avons accès à des faits. Le salut en Christ est un fait, il s'est présenté comme ça dans l'Écriture, mais dans les deux cas, c'est un fait interprété. Et donc, ça veut aussi, bon, pour l'âge de la Terre, par exemple. Cela ne veut pas dire que c'est faux, hein, mais qu'il y a simplement toute une construction théorique derrière. Alors, qu'est-ce que cela veut dire plus spécifiquement pour l'exégèse? Et là, on s'approche davantage peut-être aussi du thème qui nous préoccupe. Alors d'abord, je pense qu'il est important de dire qu'il convient de lire les textes bibliques dans leur contexte historique original. Et pour établir le sens d'un texte, le savoir scientifique ne peut intervenir que dans la mesure où l'auteur humain et ses premiers lecteurs pouvaient y avoir accès. D'ailleurs, ce principe-là, peut être contesté. C'est une certaine façon de lire le texte biblique et de considérer qu'il y a certes deux auteurs, l'auteur humain, l'auteur divin, que l'auteur divin se révèle par l'auteur humain, mais que Dieu se révèle par l'auteur humain sans court-circuiter l'auteur humain. Alors, il y a d'autres façons d'envisager l'inspiration biblique. Alors déjà, vous avez des approches non évangéliques qui voudraient séparer l'auteur humain de l'auteur divin, et donc qui accepteraient quand même l'auteur humain, donc énonce des faits erronés. Donc je pense que ça, c'est pas acceptable dans cette perspective évangélique. Mais vous avez aussi une approche qui met tellement l'accent sur l'auteur divin, qui lui, bien sûr, est omniscient, qu'on ne se gêne pas d'importer dans la lecture du texte du savoir scientifique moderne pour comprendre le sens du texte. Et là, je pense qu'on ne prend pas au sérieux le fait que Dieu s'est révélé dans l'histoire et à des hommes qui pouvaient comprendre aussi cette révélation et qui tenaient compte donc aussi de ce contexte historique. Et donc je ne pense pas qu'il soit légitime d'importer notre savoir scientifique. Alors, typiquement, pour le déluge, ce serait par exemple, nous avons le texte de la Genèse, nous savons par la géologie qu'il n'y a pas eu d'inondation globale, donc le texte ne peut pas nous enseigner une inondation globale. Ça, je pense que c'est un raisonnement qui est illégitime. Il faut lire le texte, comme Mathieu Richel a fait. Il faut lire le texte dans son contexte, en comparaison au texte de son époque, de dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas partir avec un a priori. En revanche, je crois qu'il est tout à fait légitime de comparer, dans une deuxième étape, ensuite, enseignement biblique et, disons, ce que nous croyons savoir sur la base de la science, parce que c'est bien, disons, la révélation du même Dieu. Et donc, alors, je cite la déclaration de Chicago sur l'inhérence biblique, un texte de référence, parfois décrié comme fondamentaliste quand on le lit vraiment. Je crois que la réputation ne se justifie pas. Et donc, je souscris tout à fait à ce qu'on dit. Donc, nous déclarons illégitime l'emploi d'hypothèses scientifiques sur l'histoire de la Terre pour renverser l'enseignement de l'Écriture sur la création et le déluge. Car, moi maintenant qui ajoute, la science n'est pas un magistère qui décide de l'interprétation de la Bible. Nous devons faire attention de ne pas remplacer le pape par la science et dire, ben voilà, la science nous dit qu'on ne peut pas comprendre les textes de la Genèse en particulier dans un certain sens. Maintenant, ayant dit cela, je crois qu'il est indéniable et même légitime qu'un progrès du savoir scientifique peut fournir un stimulant extra-exégétique qui nous pousse à reconsidérer la solidité de l'interprétation biblique adoptée, parce que la science est faillible, mais l'exégèse biblique l'est aussi. Et alors, le schéma que Bowyer a montré sur les estimations de l'âge de la Terre, évidemment, un chrétien d'être du 15e siècle n'avait pas grande raison de se poser la question si la Bible enseignait ou non donc, un âge de la terre de quelques milliers d'années. Et là, il prenait les textes un peu au pied de la lettre. Mais donc un progrès scientifique là, évidemment, nous oblige à retourner vers les textes et dire mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Est-ce qu'ils enseignent ça ou non? Hein, donc, en fait, on remet l'exégèse sur le chantier. Et donc, deuxième, aussi donc une conséquence importante, c'est de dire que tout ce que la Bible enseigne est vrai. En tout cas, ça, c'est la conviction évangélique, j'espère que nous partageons. Mais que la Bible n'enseigne pas tout ce qui est vrai. Alors, en général, c'est par rapport aux dinosaures que la question est posée. Mes collègues qui me disaient un jour, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas plus étonnés du fait que la Bible ne veut pas des Esquimaux. Mais curieusement, c'est l'absence des dinosaures qui interroge plutôt que l'absence des Esquimaux de la Bible. Mais bon, en tout cas, hein, la Bible est entièrement fiable quand elle aborde des sujets scientifiques. Mais bien entendu, il convient de faire attention aux genres littéraires différents pour savoir quelles conclusions scientifiques tirer d'un texte. Donc, aucune préférence pour, disons, a priori, hein, pour une lecture littérale. Il faut regarder le genre littéraire. Mathieu Richel l'a souligné. Hein, nous devons aussi accepter que les genres littéraux sont différents pour d'autres époques. Vous entendez une histoire en français qui commence avec « Il était une fois ». Vous savez que ce qui suit est un conte. Et vous n'allez pas accuser celui qui raconte l'histoire de mensonge parce qu'il vous raconte une histoire inventée. Bon, un étranger va peut-être pas forcément comprendre. Hein, c'est codifié dans une culture que c'est une introduction pour un conte. Parce qu'en soi, il était une fois, bon, c'est assez insignifiant, disons, comme introduction, pris simplement comme une phrase. Donc on pourrait aussi passer à côté quand on n'est pas de la culture. Et donc, je crois aussi qu'il faut dire que dans la plupart des cas, le langage biblique n'a pas la précision technique du discours scientifique. Hein, bon, célèbre exemple, je pense peu. Bon, il y a toujours des gens qui contestent cela aujourd'hui, mais bon, presque tout le monde est d'accord pour considérer quand la Bible enseigne, disons, dit hein, que le soleil parcourt le ciel, qu'on est au niveau des apparences, et non pas d'un traité d'astronomie. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de noter, en fait, qu'il existait bel et bien des textes scientifiques dans le Proche-Orient ancien. Donc, il ne faut pas penser que la science serait de notre invention. Donc, il y avait des traités d'arithmétrie, de trigonométrie, des traités d'astronomie, de médecine. Mais ces textes scientifiques avaient des genres littéraires bien précis. Et qui sont différents, justement, des genres littéraires de textes scientifiques actuels, et que ces genres littéraires ne sont pas représentés dans la Bible. Et donc, c'est donc un argument supplémentaire pour dire que, justement, la Bible ne tient pas à enseigner la science, et il est même intéressant qu'à certains moments, on pointe vers une activité qu'on aurait appelée scientifique à l'époque. Donc de Salomon, donc, alors Listenwissenschaft, donc la science des listes, hein, donc une classification des animaux, etc. Et donc, semble-t-il qu'un 1 roi 5, verset 13 nous renvoie à cela, mais que justement, ce qui pourrait relever dans une activité scientifique n'est pas inclus dans la Bible. Et donc, ce que dit Calvin donc, est justifié. Ça n'a point été l'intention du Saint-Esprit d'enseigner l'astronomie. Alors, il discute là un problème très précis, pourquoi, parce qu'il savait déjà à son époque que Saturne était plus grande que la Lune, et donc certains demandaient pourquoi le texte de la Genèse parlait de la Lune plutôt de Saturne. Et donc, il dit, donc, bien que Saturne soit plus grande que la Lune, toutefois, parce qu'à cause de la longue distance, lui n'apparaît pas devant les yeux, le Saint-Esprit a mieux aimé, par manière de dire, de bégayer, que de fermer le moyen d'apprendre aux ignorants et idiots. Là, c'est Calvin, hein, c'est pas un théologien moderniste. Donc, c'est même assez osé, hein, dans cette image-là, hein, donc du Saint-Esprit qui bégayait hein, pour parler justement aux ignorants que nous sommes. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, oui, mais d'accord, alors si la Bible enseigne, disons, utilise simplement un langage d'apparence, le genre littéraire scientifique n'est pas représenté, pourquoi tant insister sur le fait que la Bible dit vrai, même quand elle parle de la science, parce que dans les faits, elle n'en parle pas, ou très peu. Alors, je pense qu'il y a déjà une question de principe, il n'y a pas de séparation entre foi et savoir. Donc, il faut vraiment aller lire les textes bibliques et pas partir d'un a priori qui dit « mais de toute façon, la Bible ne peut rien dire, ce qui relève de la science », aussi parce que les frontières de ce qu'on appelle science évoluent. Et donc, c'est une question aussi de définition, hein, ce qui relève de la science et ce qui ne relève pas. Et alors, aussi parce que la vision biblique du monde sous-tend plusieurs présupposés fondamentaux de la science. Donc en fait, dans la démarche scientifique elle-même, il y a comme implicite la vision du monde comme création. Et d'ailleurs, historiquement, cela a joué un rôle, on peut le montrer, chez des auteurs comme, même comme Galilée, comme Newton, comme Robert Boyle. Donc les scientifiques qui ont mis au point la méthode scientifique moderne, ont été inspirés par cette idée de création. Il y a des auteurs qui proposent même d'y voir une explication du fait historique que la science moderne est née en Occident. Alors que la Chine, par exemple, était beaucoup plus avancée sur le plan de la civilisation. Mais, en tout cas, certains auteurs ont argumenté dans ce sens-là, qu'il manquait à la Chine cette notion d'un législateur divin, donc universel, qui pouvait donc gouverner sur l'ensemble du monde, et qu'il manquait en particulier donc tout fondement à un concept de loi de la nature. Mais alors, quand même, je terminerai sur cette question-là, est-ce que, alors la Bible est un arrière-fond de la méthode scientifique, c'est une question de principe, ne pas exclure d'office des renseignements scientifiques, mais très concrètement, la Bible contient-elle des informations scientifiques précises? Alors, la réponse donnée dépend largement, alors d'un côté, de ce que vous appelez science, parce que si vous incluez par exemple la psychologie en science, et, tu vois, c'est les psychologues, je pense qu'ils voudraient que leur science soit, et que leur discipline soit une science, ou si vous incluez la sociologie par exemple, et là je vois des sociologues voilà, donc, qui tiennent certainement à cet aspect scientifique. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a un peu, encore plus de contact, mais là je pose la question dans le sens de science de la nature. Donc, la réponse donc, dépend effectivement de votre définition de la science, dépend aussi largement de la lecture que l'on adopte des textes bibliques. Donc, évidemment, les choix de genre littéraire, en particulier pour les premiers chapitres de la Genèse, vont orienter votre réponse à la question. Alors, si vous voulez malice privée, provisoire, d'enseignement public qui se trouve dans la Bible, je vous en donne trois. Ce n'est pas une liste très longue, mais voilà, je serai prête à défendre que c'est inclus. Donc, il y a d'un côté le début temporel de l'univers, donc notre univers n'est pas un univers éternel. Alors, les choses se compliquent pour les spécialistes parce que le paramètre temps a peut-être émergé avec l'univers. Et donc, ça ne me paraît pas gênant, disons, d'envisager quelque chose de ce type-là. Mais il me semble que la Bible enseigne que le monde, que notre univers a un début temporel. Je crois, alors là aussi on pourrait débattre, plutôt on en a déjà débattu, donc l'origine commune de l'humanité. Il y a vraiment une origine commune à l'humanité dans le sens théologique, et donc origine biologique commune. Et troisièmement, que l'homme est plus que son corps. Donc, en langage traditionnel, on dirait que l'homme a une âme. Alors, tout ça, sont des questions dont nous avons déjà débattu dans d'autres journées avec ceux. Et ce n'est pas le lieu, je pense, pour ouvrir le débat maintenant. Mais je voulais donc juste vous donner ces quelques réflexions très générales qui prennent du recul par rapport au thème du déluge précisément, pour nourrir le débat qui suivra maintenant, et qui se concentrera, je pense, effectivement, sur la confrontation entre savoir scientifique et lecture biblique par rapport au déluge.